France Inter.
Auteur, metteuse en scène, plasticienne, créatrice de décors et de costumes, ancienne directrice de la Criée, Théâtre National de Marseille, artiste professeur invité au Frénois, Studio National des Arts Contemporains de Tourcoing pour cette saison, et directrice de la compagnie théâtrale Mademoiselle, Macha Makeyev a créé en mars dernier au TNP de Villeurbanne une mise en scène de la pièce de Molière, donnée pour la première fois en 1665, Don Juan. La pièce sera visible dès demain et jusqu'au 19 mai prochain au Théâtre de l'Odéon à Paris. Macha Makeyev en signe la mise en scène et les décors et donne comme incarnation au bourreau des chœurs l'enveloppe charnelle du comédien Xavier Gallais. Son fidèle et moral Valès Ganarelle est joué par Vincent Winterhalter et vous verrez dans les autres rôles apparaître certains visages plusieurs fois. La pièce s'entend autrement à notre époque où l'emprise amoureuse peut être sujet à condamnation. Qui est ce Don Juan, séducteur insatiable, qui semble remplir frénétiquement son lit pour combler une âme vide? Pas sûr que la réponse satisfasse toutes les oreilles. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Macha Makeyev.
Bonsoir Eva Bester.
À quoi avez-vous le plus pensé aujourd'hui?
J'ai pensé à demain, j'ai pensé au moment où les acteurs allaient entrer en scène. Oui, rien de bien original, mais cette excitation, ce mélange d'excitation, de concentration, pour certains de fantaisie, d'autres presque au bord des larmes, l'émotion des acteurs est quelque chose qui me touche infiniment. Je les aime beaucoup, vraiment, à cet endroit, juste avant qu'ils montent au front. Et c'est eux qui sont exposés, c'est eux qui portent tout ce qu'on a rêvé ensemble. Et voilà, et à ce moment-là, juste avant de pousser la porte battante, parce qu'il y a beaucoup de portes dans le décor, je les aime particulièrement.
Est-ce que vous assistez à toutes les représentations?
À peu près toutes. En tout cas, je suis dans le théâtre. Quelquefois, je suis un peu trop nerveuse, donc je tourne en rond dans les je parcours les couloirs, mais je n'aime pas les abandonner. Et si je dois vraiment être ailleurs, ce qui va m'arriver un jour ou deux, je serai assez obsessionnelle, oui, je penserai à eux. Et puis j'aime, mais quelquefois aussi, quand on a beaucoup joué, j'aime bien être dans ma loge et j'écoute le spectacle beaucoup, mais ce que je préfère, c'est la coulisse.
Macha Makeyev, il y a un fleuve qui s'appelle le Don dans le sud de la Russie.
Oui.
Et vos grands-parents paternels étaient des Cosaques du Don.
Oui.
Et vous faites Don Juan.
Oui, alors ça, c'est un autre fleuve pas tranquille que le donjuanisme. Et c'était, pour moi, c'était une chose qui me tenait à cœur. Pourquoi? Parce que c'est du théâtre de troupe d'abord. Et quand on a joué et monté et joué Tartuffe, j'avais devant moi des acteurs magnifiques et je ne pouvais cesser de recomposer, de me dire, tiens, dans tel et tel rôle, il serait formidable, et puis cette chimie-là, ça marcherait. Et il y a une telle porosité entre le Tartuffe en cinq actes et ce Don Juan, parce que Molière a écrit un Tartuffe en trois actes, puis Don Juan, et tout ça dans un laps de temps, plus le Tartuffe en cinq actes, enfin autorisé, c'est vraiment, il y a une porosité, il y a quelque chose qui circule, il y a une interrogation profonde sur le ciel qui serait vide. Il s'interroge sur le qu'est-ce que c'est que le corps de cet homme et ce vide de l'âme, et voilà, toute chose qui nous importait. Et puis quand je l'ai proposé à Xavier Gallais, je lui ai dit de passer de Tartuffe à Don Juan me paraît avoir de l'esprit pour toi. Et il m'a dit oui tout de suite. Et Vincent Winterhalter, de Orgon à Sganarelle aussi, il y a quelque chose de... dans un couple comme ça. C'est-à-dire un couple d'hommes qui dans l'impossibilité de s'aimer vraiment, et même de s'aimer d'amitié profonde vraiment, parce qu'il y a toujours une cassure sociale, une impossibilité sociale.
Je suis navrée parce que je vous ai entendu prononcer le nom de Vincent Winterhalter et on avait vérifié la prononciation dans une fiction de France Culture et j'avais dit Winter. Donc je lui présente mes excuses à distance. Et le comédien Xavier Gallet qui interprétait Tartuffe et qui est ici Don Juan, vous dites à son sujet Macha Makeyev que ses silences sont d'une cruauté implacable et destructrice. Comment est-ce qu'on peut donner autant de puissance au silence?
C'est l'exercice de l'art de l'acteur que de faire entendre quand il se tait. Et les grands acteurs savent le faire. Et celle qui reçoit, en l'occurrence Irina Solano, qui joue Elvire, est divisée. Et c'est quand je parle de cruauté, c'est que c'est vraiment là aussi une mécanique de l'emprise par le silence. C'est-à-dire, il y a... Comment diviser une femme? Comment lui signifier qu'elle n'existe pas, si ce n'est de ne pas l'entendre? Et même, elle réclame un regard. Elle réclame qu'il tourne le visage vers elle. Et la laisser dans ce flou, dans cette inconsistance de la présence, c'est, ouais, bien sûr, c'est quelque chose déjà d'un trait tout à fait sadien.
À quoi tu penses? Tu penses à moi qui pense à toi? Dans ce silence, parfois, quand le vide est si dense qu'il ne désemplit pas, à force de prudence, ça risque de jeter un froid. Est-ce que tu penses sans langue de bois, quand le crépuscule est immense, que le temps finit? Toi là-bas, c'est vrai que j'ai tendance à penser que ça va de soi. Je me dis tout en nuance quand je suis ici et toi là-bas. Y a des chances que tu penses à moi qui pense à toi. À quoi tu penses? La distance on s'habituera. Et l'absence tu crois? Et le chacun pour soi. Avant la prochaine séquence, le prochain fait pas. À quoi tu penses? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Si je m'avance, romancer tout et n'importe quoi, balancer l'indifférence, la crise de foi. Est-ce que tu flanches? Tu penses à moi qui pense à toi. Vers quoi tu penches pour revoir l'envers à l'endroit, quand la nuit est si blanche qu'elle ne dégrise?
Morceau Le Silence, Junior.
Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
Macha Makeyev, ce n'est pas la première fois que vous frayez avec Molière. Vous étiez déjà attaqué avec Jérôme Deschamps aux Précieuses Ridicules. Vous avez monté, vous seul, Les Femmes Savantes, Tartuffe. Là, c'est Don Juan. C'est un Don Juan revisité en gardant le texte original, je crois. Et tout à l'heure, vous avez évoqué Sade, qui fut vraiment une inspiration pour cette mise en scène. Pouvez-vous développer ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, c'était le couple Sade et son valet Latour, son compagnon de frasque. Et je me suis toujours interrogée et j'ai beaucoup lu sur ce qui se passait entre ces deux hommes qui se séduisaient réciproquement en faisant le mal, en fait, et dans la jouissance du mal. Et puis, j'ai pensé aussi qu'il était intéressant et voluptueux de faire glisser le libertin du XVIIe siècle au XVIIIe, dans ce siècle d'idées lumières où le ciel est vide, et dans la sensualité littéraire aussi, des mots, la sensualité des corps, dans cette liberté-là, et du coup, plastiquement aussi, la sensualité des couleurs, des étoffes, des matériaux, de la lumière aussi. C'est Jean Bellorini qui fait des lumières et il a beaucoup travaillé au clair-obscur et on s'est inspiré de la peinture, bien sûr, et en même temps, et pour dessiner aussi des personnages qui n'existent pas a priori, mais que Molière nous laisse accueillir, bien sûr, Watteau et notamment Ébouché et tant de choses. Et jouer avec ce glissement-là, pourquoi aussi dramatiquement ? Parce qu'au XVIIIe siècle, ce libertin met en danger une société aristocratique qui va vouloir s'en débarrasser. Et on le sent dans, me semble-t-il, vraiment plus que jamais dans Don Juan, quelque chose de l'ordre quasi du complot, quelque chose qui se fait entendre que ce grand seigneur méchant homme est de trop. Et que déjà, on sent la fracture sociale, on sent quelque chose de l'ancien régime qui va craquer. Et lui, à cet endroit-là d'immoralité totale, de libertarisme violent, de transgression, d'une forme de sacrilège à la fois social et de la pensée, il est de trop.
Oui, il est de trop. J'imagine aussi que cette société veut s'en débarrasser parce qu'il est le reflet de ce qu'ils aimeraient chaque membre se permettre.
Oui, exactement. Il a compris la mécanique, le mécanisme social d'une société où l'hypocrisie, notamment, ce qui tenait vraiment à cœur à Molière de détruire, de détruire sous les yeux du public toute illusion de. En disant la société ne fonctionne que par le faux-semblant, en fait. Et ce que l'on croit être la structure d'une société, c'est très souvent les faux-semblants. Et à cet endroit, d'ailleurs, Molière fait entendre des textes qui nous touchent, enfin, qui viennent comme des flèches nous toucher, parce que on sent la sensibilité de notre époque à fleur de peau.
Alors justement, il y en a un qu'on a imprimé, que je vous ai mis sous les yeux, Macha Makeyev. Est-ce que vous auriez la gentillesse de le lire ? C'est absolument magnifique et ça frappe d'effroi aussi, puisque c'est totalement applicable aujourd'hui.
Oui, alors c'est donc Don Juan qui dit ça, puisqu'il se mêle de devenir, de faire mine devant son père notamment, avec qui il a des relations extrêmement difficiles, de faire mine d'être hypocrite. Et je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde, et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué tant soit peu, je ne pardonnerai jamais, et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je ferai le vengeur des intérêts du ciel, et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété, et serai déchaîné contre eux des zélés indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures, et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes, et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle.
Beaucoup de gens ont l'air de suivre cette conduite Macha Makeyev. Molière jouait Sganarelle, donc le valet qui est censé être la conscience de Don Juan, après l'interdiction de son Tartuffe accusé de perversion par l'archevêque de Paris. Mais de quel côté pensez-vous que Molière se trouvait? Car il semble s'amuser des deux personnages.
Oui, alors justement, je pense que s'attribuant ce rôle-là, pour moi, Sganarelle est beaucoup plus spirituel, ironique que souvent on l'imagine. C'est-à-dire, on l'imagine quelquefois un peu benêt, très premier degré. Pas du tout. Je pense qu'au contraire, il est en miroir de son maître. Et si ce n'était la fracture sociale, il serait vraiment dans une absolue complicité. Mais là, sans arrêt, il va chercher le discours de son maître. Et il le met face à lui-même. C'est très intrigant comme rôle. C'est pas du tout le simple faire-valoir. C'est pas un personnage de farce. C'est comme une conscience, un double, le gant retourné de Don Juan. Mais son ironie jusqu'à la fin est admirable. Et il faut tenir, je disais à Vincent, il faut absolument qu'on tienne cette musique-là de l'esprit français et de l'ironie. Qui est une des formes de l'intelligence de l'autre et de la situation aussi, parce que quand même les situations sont très fortes.
On va revenir à ce personnage qui a une ambiguïté assez fascinante, et là vous venez de dire le mot musique, Macha Makeyev. As long as we're together, The Lemon Twigs. Macha Makeyev, vous ouvrez Don Juan en musique. Il y a toujours de la musique dans vos pièces. Pourquoi ce titre-là?
Ce titre-là parce qu'il est, il donne la bonne distance tout de suite. C'est-à-dire, il nous touche, il nous parle à notre endroit d'actualité. Je pense que le réel d'aujourd'hui est plus audible si précisément on fait glisser les choses vers les artifices du théâtre. C'est vrai que là, dans ce Don Juan, on n'a pas de costume-cravate. C'est vraiment quelque chose de l'ordre de la rêverie autour du XVIIIe siècle. Et tout d'un coup, de commencer, de finir avec Lemon Twigs, qui est cette pop californienne qui nous donne une espèce de frisson, et aussi avec ce texte et cette fin si difficile, si cruelle, quelque chose de l'ordre d'une autre volupté qui est notre simple plaisir de l'oreille.
Vous ouvrez aussi avec un comique très circassien, très Jacques Tati, et je le dis puisque vous l'avez connu et que vous vous occupez de la restauration de son catalogue. Et des hommes entrent et sortent par des portes battantes, se croisent, sursautent, recommencent. Ça pourrait même être du Tex Avery. Je crois que vous préparez justement quelque chose autour du cirque pour le Mucem.
Oui, c'est pas seulement du cirque. C'est en piste Clown, Pitre et Saltimbanque. C'est sur la fragilité de la figure de l'artiste et la fragilité des saltimbanques et de toutes ces existences-là, du montage et du démontage, du ratage et de la virtuosité, de celui qui veut sauter pour aller un peu plus proche, être un peu plus proche du ciel et risquer de tomber, de se blesser. Voilà, c'est autour de cela. Il y a quelque chose aussi à la fois de spectaculaire, parce que j'espère que ce sera une déambulation qui sera comme un spectacle immobile, mais c'est aussi quelque chose d'assez mélancolique, parce que ce sont un peu des paradis perdus aussi.
Vous vous considérez comme une saltimbanque?
Ah oui, quand je suis là avec mes gros sacs à arriver sur un plateau où je vois se monter ou se démonter le spectacle, où je cherche un accessoire dans mon stock, où je trouve quelque chose sur un trottoir et qu'il faut le transporter jusqu'à l'atelier, sur le découragement aussi, sur la fatigue. Je pense à Colette dans La Vagabonde quand elle parle du music hall, de sa vie de saltimbanque music hall, avec toute cette suite de petites défaites et de temps en temps ces moments sublimes avec les autres, avec les acteurs. Voilà, c'est ça, c'est essayer de casser l'ordinaire et pour aller vers quelque chose de presque irréel.
Vous avez écrit sur la poétique des objets, vous en ramassez, vous en collectez. Quel est le dernier objet trouvé?
Alors c'est une boîte en zinc qui fait un bruit extraordinaire et que j'aimerais bien mettre un jour dans un spectacle. Pas tant pour elle que pour ce qu'elle raconte. On dirait qu'elle crie. Et elle est toute petite, alors elle crie très doucement. Elle n'ose pas vraiment faire un vrai grand bruit. Mais j'aime beaucoup les objets comme ça, démunis, qui nous surprennent et qui sont à l'image de la fragilité des êtres humains, en fait.
Est-ce que vous arrivez à crier fort, Masha Makayev?
C'est rare.
Vous criez doucement comme ça,
boîte? Je ne suis pas tout à fait sûre.
Bon, alors les auditeurs de Grand Canal connaissent évidemment les vers de Molière par cœur, mais il est toujours judicieux de se rafraîchir la mémoire. Voici Sganarelle, valet de Don Juan, qui décrit son maître avant que celui-ci ne fasse son entrée.
Un mariage ne nous coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles, et c'est un épouseur à toute main. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne. Il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nom de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'aux autres soirs. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage, et pour en achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau.
Don Juan a un appétit insatiable de conquête. Il vient de commettre un meurtre, celui du commandeur, qui reviendra sous une autre forme. Et il n'est pas simplement amoral et cynique, il est pervers. Il ne se soucie guère de faire souffrir les femmes. Il veut aussi briser les couples d'amoureux innocents qu'il rencontre. Vous, Masha Makayev, quel sentiment avez-vous à l'égard de cet être qui est aussi odieux que fascinant?
Bien sûr, il est comme aimanté. Je pense que le corps de Don Juan le dépasse, en fait. Et il est un obstacle au vide qu'il habite.
Vous parlez de Sganarelle, là?
Non, je parle de Don Juan.
Ah, à lui-même?
Oui, lui-même, je pense que c'est ça. Sganarelle, au fond, c'est un peu le metteur en scène de son maître. Il, sans arrêt, il le met en scène, il le fait parler, il le fait tourner, il le déguise. Et ça, selon vraiment ce que demande Molière. Donc, il y a quelque chose entre eux qui se théâtralise. Ils sont un public l'un pour l'autre. Ce regard-là m'intéresse beaucoup, le théâtre dans le théâtre. Et on est allé avec la troupe encore un peu plus loin, puisque la scène où Don Juan veut séduire, cherche à séduire Charlotte et la séduit, ainsi que Mathurine, ce sont des comédiens qui, à l'intérieur de l'histoire qui l'interprète. Parce que le parallèle avec Sade et Latour, je m'en suis vraiment inspirée jusqu'au bout. C'est-à-dire que Sade est enfermé plus de 27 ans. Il est reclus, il est embastillé. Jusqu'à Charenton, chez les fous, jusqu'à la fin de sa vie. Et il n'a de cesse que de se faire donner le théâtre. Et ça, il ne cesse pas lui-même d'écrire pour le théâtre, de jouer, de faire représenter le monde. Dans cet effort de représentation du monde, il y a un mystère qui s'inscrit, et je pense que la vérité se dit encore davantage. Donc je voulais imaginer un Don Juan qui, à cet endroit, est lui-même reclus, enfermé chez lui, non pas allant de lieu en lieu, dans un théâtre de machines, mais au contraire, dans un enfermé chez lui, et comme traqué, et quand même à cet endroit où il se fait donner le théâtre. Et cette réjouissance de la représentation vaut toutes les vies, et vaut même la vie de Don Juan. De ce point de vue-là, c'est une forme de vérité qui se fait entendre.
A clue, stars some as evening.
Fabiana Palladino, Stay With Me Through The Night.
Grand Canal. Eva Bester sur France Inter.
Macha Makayev, nous évoquons votre mise en scène de Don Juan qui commence demain au Théâtre de l'Odéon.
En ce cas, monsieur, je vous dirais franchement que je n'approuve point votre méthode et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites.
Quoi ? Tu veux qu'on se lie à demeurer au premier objet qui nous prend ? Qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne ? Oh, la belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion, d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non.
Non. Ils ont tous les deux, Don Juan et Sganarel, une ambiguïté. Don Juan, qui est très hypocrite, semble parfois sincère. Je pense que quand il séduit pour la première fois une nouvelle proie, il est sincère dans son désir. Et Sganarelle est très ambigu, puisqu'il est à la fois la sorte de conscience morale, le Jiminy Cricket de Don Juan, et en même temps, quand il se travestit en médecin, et qu'il prend goût, et qu'il fait des ordonnances à tout le monde alors qu'il n'y connaît absolument rien, puis il favorise aussi certaines mauvaises actions de son maître.
Mais c'est une chose qui nous importait de montrer, c'est l'ambivalence de chacun. Et c'est le génie de Molière que de nous dire que chez un être, il n'y a pas, même à l'intérieur de ce qu'il dit, on peut entendre le corps dire autre chose. Ils sont là et à côté, ils cherchent, ils vivent sous nos yeux, ils s'étonnent sous nos yeux, ils ne sont pas tout d'une pièce, ils ne sont pas constitués tout à fait entièrement au début de la pièce pour à la fin. Non, sans cesse, ils évoluent aussi. Cette ambivalence de ces deux personnages, c'est aussi une forme de la jouissance entre eux. C'est-à-dire, ils se surprennent. Et évidemment, c'est là qu'on voit aussi le plaisir de l'acteur Molière, c'est-à-dire que ils se surprennent, et je vous assure que quand ils jouent, les acteurs se surprennent encore chaque soir, et c'est quelque chose d'absolument étonnant. Mais il ne faut pas en rester qu'au texte. Il dit, même Don Juan dit quelque chose et son corps le trahit sans cesse. Et j'allais dire chez Irina, chez Elvire, qu'Irina Solano interprète. Là, vraiment, je voulais vraiment qu'on travaille sur ce corps et ce dire qui sont vraiment divisés. Parce que le phénomène de l'emprise, c'est ça, c'est casser un être en deux, c'est l'arracher. Il y a un arrachement intérieur qui se produit. Et le corps d'Elvire est encore attiré, aimanté par celui de Don Juan. Et son esprit lui dit que la dangerosité et le piège que cela représente. Et à deux reprises, Elvire dit non, non, et elle finit juste avant de sortir. C'est ce qu'elle dit très fort. Et aujourd'hui, ces deux noms-là se font entendre très particulièrement.
Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. J'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent. Que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient, autre part, et que le ciel est fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris, et j'ai craint le courroux céleste.
Là, on entend parfaitement ce que vous évoquiez, Macha Makayev, cette ambiguïté, cette ambivalence, dont Juan fait semblant de se repentir devant Elvire qui a été abandonnée, et on l'entend rire lui-même de ce qu'il dit, puisqu'il se moque du ciel.
Oui, c'est la jouissance du menteur. C'est, de toute façon, c'est un jouisseur, même à cet endroit-là, dans le lien à l'autre. C'est un acteur magnifique, Don Juan, aussi, de ce point de vue-là. Ce qu'on entend, c'est aussi, mine de rien, la mécanique d'une défaite, parce que d'un mensonge à l'autre, quelque chose de la toute-puissance masculine va s'effondrer. Je pense que c'est peut-être là l'écho le plus évident à aujourd'hui, c'est-à-dire que s'il rit lui-même de sa situation, de sa goujaterie aussi, parce que si c'était pas si grave, on en resterait à la goujaterie, mais là, c'est ce qu'il fait endurer aux femmes autour de lui en raison du mensonge, c'est de l'ordre du crime aussi. Donc, je crois que ce rire-là est bienvenu parce que on assiste à cette défaite de la toute-puissance masculine.
Macha Makayev, vos parents ont eu 9 enfants. Et votre père profondément...
Quelle drôle d'idée.
Mais vous allez voir, je vais lier ça à ce qu'on évoque. Votre père était profondément religieux et exigeait que vous lisiez la Bible tous les jours, ce qui ne vous déplaisait pas. Et que vous fassiez constamment votre examen de conscience. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous êtes un peu sganarelle avec vous-même? Ou plutôt Don Juan?
Oh, pire que ça, vous savez. Ah oui. Mais je me soigne. Donc je me soigne au quotidien par la fantaisie, par le théâtre, par le rire aussi. Le rire qui... Et je pense que l'humour et l'esprit, c'est vraiment ce qui nous sauve de cet enfer, de ce qui pourrait se retourner contre nous et d'une espèce de forme de culpabilité qui n'est pas la bonne. Mais le rire est salutaire et salvateur, oui, vraiment.
Et en dehors des mots, il y a l'aspect matériel et physique des choses. Vous donnez une dimension physique aux agissements de Don Juan, parce que vous placez le lit fréquemment utilisé pour ses multiples bagatelles sur scène.
Oui, il est enfermé chez lui, et il a cette espèce de... Ce qu'on appelle à Marseille une radassière, c'est-à-dire c'est un lit pour la journée, c'est un lit de repos qui peut servir à toutes sortes de choses, mais c'est aussi une chose, enfin, c'est comme un piège, c'est un mousetrap, et il attire Charlotte, et en même temps c'est la sensualité, c'est cette odeur du lit défait, comme disait Chadelot de Laclos, c'est, il y a un côté un peu, dans son approche, liaison dangereuse, il y a aussi une désinvolture, ça sent un peu, oui, il y a de la lingerie qui traîne, il y a des choses qui... Il y a un désordre. Je voulais que ce décor, pour être élégant, j'espère, néanmoins raconte le dérèglement de sa vie. Et quand le père, ce grand courtisan très acide comme ça, arrive, tout le dégoûte, enfin, vraiment, cette espèce d'endroit où on mange, où on fait l'amour, où on séduit, où on chante, qui est à la fois une maison et un lieu de perversion aux yeux du père, lui fait horreur. Et c'est là encore l'insolence de Don Juan, mais son insolence a des limites. Et la fin de Don Juan... Et c'est quand même la fin aussi d'une grande comédie. Et le génie de Molière, c'est d'avoir mis la mort d'un personnage à l'intérieur d'une grande comédie. Ça nous met à un endroit de la vérité absolument passionnant.
Bande d'Handel utilisée dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick en 1975, dont vous vous êtes inspirée pour les costumes, Macha Makayev?
Alors, je me suis inspirée du XVIIIe siècle, bien sûr, je pense que le cinéma nous inspire aussi tout autant, mais ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que j'avais sur les bras pas mal de costumes XVIIIe depuis longtemps, et je les aimais beaucoup, et je les ai même montrés dans des expositions, et je les montrais à des gens que j'aimais, et je désespérais de les utiliser parce que les coupes, ce sont des costumes du 19e, et la stature des personnages, enfin des hommes et des femmes, a tellement changé. Donc je rêvais de les transformer, de les mettre sur scène.
La stature a changé ?
Oui, la carrure est très, on est très différentes. Avant, on avait une espèce de cambrure aussi. Les hommes aussi portaient le corset, donc on
ah
sent
oui
tout ça dans la Oui, donc j'ai trouvé un moyen à l'atelier de avec l'atelier du TNP avec qui je travaille. On a trouvé la façon de pouvoir les adapter au corps d'aujourd'hui.
Il y a aussi un côté très cinématographique dans votre mise en scène, et je pense, il y a de la danse, il y a du clavecin, et puis je pense à cette petite vignette où des danseurs illustrent les amoureux dont parle Don Juan, pendant qu'il en parle.
Oui, ce théâtre dans le théâtre nous permet aussi une chose que j'aime infiniment, c'est le mélange des arts sur scène, c'est-à-dire effectivement il y a du chant, il y a de la danse. Guillaume Sciard m'a aidé aussi pour les mouvements et pour ces petits mouvements de danse. Et c'est sans arrêt. C'est des choses qui éclosent et qui disparaissent, comme le Colin Maillard. Pourquoi ? Parce que si on prend vraiment au plus près à l'os la dramaturgie de Don Juan, c'est vraiment un être empêché. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à son plaisir, qui n'arrive pas à la jouissance. Il ne parle que de ça, il n'espère que ça, mais il est sans arrêt empêché par des gens qui font irruption chez lui. Il n'arrive même pas à souper, il le réclame à quatre reprises. Et là, on sent bien la géniale malice de Molière à cet endroit. C'est-à-dire que le jouisseur, il empêche le jouisseur. Ça, c'est vraiment une force de la comédie, de mettre son personnage dans l'embarras.
No money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life.
Écoutez Grand Canal sur France Inter, Nina Simone, Ain't Got No, I Got Life, et c'est votre choix musical, Masha Makeyev.
Oui, Nina Simone m'accompagne beaucoup. J'ai une profonde admiration, évidemment, pour l'artiste qu'elle est. Je trouve que la vie de cette artiste est une véritable parabole. Et ce qu'elle produit, cette espèce de mélange de colère et de volupté, c'est magnifique. Et le personnage aussi, la façon dont elle se tenait au piano, la façon dont elle avait de ne pas nous regarder, elle me bouleverse vraiment et elle m'accompagne aussi beaucoup.
C'est amusant puisque je crois que c'est la troisième fois au moins que vous prononcez le mot volupté. C'était surtout au sujet évidemment de votre mise en scène de Don Juan et oui, dont nous n'avons pas cité les autres comédiens qui font des doubles rôles.
Oui, alors J'ai une troupe magnifique. C'est pour ça aussi qu'on peut monter ces pièces-là. C'est grâce à une immense complicité, une joie à jouer ensemble. Et il y a Joachim Fossi, il y a Khadija Kouyaté, il y a Anthony Moudir, il y a Pascal Ternisien, et c'est pas la première fois que nous travaillons ensemble, outre Vincent Winterhalter et Xavier Gallet. Il y a Jeanne-Marie Lévy qui est au clavecin et qui chante. Il y a Xavrine Lefebvre qui est tout ça. Il y a aussi une partie de la troupe extrêmement jeune et Irina Solano qu'on a évoquée pour Elvire, bien sûr.
Vous avez choisi de la musique pour cette émission, mais aussi des découvertes pour les auditeurs. Ce sont deux tableaux. Vous pouvez choisir celui dont vous voulez parler le plus, c'est Le Douane et le Pénitent de Gérard Garouste ou L'Enterrement du Comte d'Orgaz du Gréco, ou les deux.
Alors, c'est vrai que j'avais choisi ça quand on m'a demandé le Gréco, parce que chaque fois que je mets en scène, j'aime bien revenir à ce tableau-là que j'ai découvert à Tolède, et parce que c'est une absolue mise en scène. Il y a tout là-dedans. Il y a l'imaginaire au-dessus et ce droit à l'imaginaire au-dessus. Si vous regardez bien, tout ce qui représente le céleste, c'est complètement fou. Les jambes volent, tout est emmêlé. C'est un tourbillon. Au contraire, la société en bas est extrêmement comment dire hiératique. Et puis, la fantaisie aussi, et le jeu des regards sans cesse. Personne ne regarde exactement au même endroit, même si tout le monde veut être vu, être regardé. Le comte d'Orgaz, ce jeune comte d'Orgaz, dans son armure sublime, ressemble à un Christ magnifique, et en même temps fait penser, évoque tous ces jeunes gens dont la vie a été emportée par la folie. Et puis surtout ce regard d'enfant au premier plan, qui est probablement le fils du peintre, et qui nous regarde regarder le tableau. Voilà, je pense qu'il y a tous les secrets d'une mise en scène dans ce tableau-là. Et quant à Garouste, évidemment, c'est mon plaisir absolu, mon admiration absolue pour ce peintre. Et ce tableau-là sera au Mucem dans l'exposition que nous préparons.
Vous préparez quelque chose d'autre dans le cadre de l'exposition Panorama au Frénois Studio National des Arts Contemporains à Tourcoing, où vous êtes artiste-professeur invité cette saison. Un petit film, je crois.
Oui, ça s'appelle ZAN, c'est-à-dire Zone d'attente Nord. Nord parce que c'est au Frénois. Et avec certains de mes acteurs, plus Hervé Lassins, voilà, je ne suis pas cinéaste, et on m'a demandé de produire quelque chose. Donc nous avons fait un plan séquence de presque 19 minutes. Voilà, dans une totale fantaisie, en reprenant un bout du leurre d'un décor et en faisant un lieu d'attente où les êtres qui sont là ne savent pas où ils en sont, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, pourquoi ils ont été convoqués.
C'est très Beckett.
Oui, et oui, c'est aussi bulgakovien un peu.
Je ne crois pas qu'on puisse tout réduire à la parole. Ce serait une grande simplification. Il faut rester en état de disponibilité pour l'étrangeté, pour ce qui fait signe à travers des épaisseurs d'incompréhension possible. Il faut laisser peut-être même sa chance à l'échec. Il y a un signe de l'échec qui ne parvient pas à parler et qui est mutisme. Peut-être que les œuvres doivent nous parler à travers ce qui étouffe la voix en elle.
L'historien des idées, théoricien de la littérature et psychiatre Jean Starobinski, en 97, dans la série documentaire Les Hommes Livres de Jérôme Prieur. J'ai choisi de passer un extrait de sa voix, puisque Macha Makayev, dans votre texte pour annoncer votre saison de professorat au Frénois, il a cette recommandation, lire Starobinski.
Oui, absolument. Oui, c'est quelqu'un qui m'a accompagnée toute ma vie. Je l'ai découverte, comme tout le monde, étudiante, et c'est de l'intelligence pure, et en même temps, il nous attrape par la main pour nous apprendre à regarder, à entendre et à toujours faire le pas de côté qu'il faut devant une œuvre d'art. C'est-à-dire ne pas chercher le poncif pour se rassurer, mais se dire qu'il y a toujours un biais et chercher, alors qu'il est dans la pensée, dans l'élaboration de la pensée, chercher toujours à, où se trouve l'émotion. Et c'est vraiment pour moi un grand esprit qui parle de la transparence, qui parle aussi de la figure du saltimbanque, enfin, il m'a éclairé à plein d'endroits et chaque fois j'avais l'impression, plus jeune, de l'oublier et chaque fois je le retrouvais.
Il y a un autre homme qui a compté pour vous et qui compte toujours, c'est Pasolini. Où en êtes-vous de l'adaptation que vous préparez?
Alors, vous savez, en compagnie, on a les moyens que l'on a et j'espère pouvoir très vite répéter Sono Uno de Pasolini, très très vite, le plus vite possible.
Dans L'Embellie, il y a un an, je vous avais demandé un petit engagement à la fin de l'émission. Macha Makayev, vous aviez répondu « regarder toujours plus les visages et les choses et établir des correspondances secrètes ». L'avez-vous respecté ?
Oh oui, je crois. Et oui, regarder beaucoup les choses aussi. Et les visages me bouleversent. Et les choses aussi, et je vois beaucoup de correspondances entre les uns et les autres.
Quelle est la dernière photographie myope que vous avez prise?
Ben c'est hier soir, en coulisses, bien sûr, la flamme. J'ai photographié la flamme.
Merci beaucoup, Macha Makayev.
Merci à vous.
Votre Don Juan sera dès demain au Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 19 mai prochain. Les spectateurs auront l'occasion de vous rencontrer ainsi que votre équipe artistique à l'issue de la représentation ce dimanche 28 avril. Un stage de jeu autour de Don Juan en langue des signes aura lieu le week-end du 4 et 5 mai prochain. Le 15 mai au théâtre, une table ronde animée par les professeurs de la Sorbonne Frédéric Regard et Anne Tomich aura pour thème Don Juanisme et séduction à l'ère post-MeToo. À signaler aussi avec un peu d'avance, du 20 septembre 2024 au 5 janvier 2025, vous exposerez votre installation vidéo Zone d'attente Nord au Frénois dans le cadre de l'exposition annuelle Panorama. Et puis, il y aura l'exposition au MUCEM. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Raphaël Rousseau. Et dans un instant, quelle chance vous avez, vous retrouverez Mishka Assayas pour Very Good Trip.